ton-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd des pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs, à la balle ou au couteau, tu évites. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il vaut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur la route. Sifflez, champignons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Bonsoir et bienvenue sur Antifada, en ce début de nouvelle année avec 2026 raisons de se mobiliser, de s'indigner, de faire la guerre à la guerre, de tenir bon face au pouvoir réactionnaire. C'est le mois des bonnes résolutions, 1312 actions à organiser, le no passera plus jamais, plus que jamais d'actualité. Un dry January où l'on garde l'alcool pour préparer d'autres formes de cocktails, avec une bonne base de révolution, plusieurs pincées d'exaspération. Le tout dans un shaker d'agitation, avec bien sûr les raisins de la colère contre la fachosphère, et comme toujours, le bras d'honneur au patriarcat, au capitalisme et au colonialisme. Bref, t'es bien sur Antifada, et si t'es là, j'imagine que tu sais pourquoi. En tout cas, bienvenue à toi dans notre émission d'idées autonomes, comme tous les premiers mercredis de chaque mois. Bonsoir, bonsoir.
Ouais, bonsoir.
Salut.
Bonsoir, bonsoir.
Salut.
Alors, c'est de nouveau nous, après un petit mois, au chaud ou au froid, je sais pas comment on doit dire, parce qu'en ce moment, il caille quand même. Et puis, au chaud de cette actualité foisonnante.
Hein. Ah ouais, c'est une chaudière l'actualité.
On a des trucs à dire, hein.
Ouais,
franchement.
Ouais.
Et on a un petit invité, on n'a pas l'habitude de mentionner de nom, donc on va pas mentionner de nom, mais on va dire qu'on a un invité.
Exactement.
Voilà, un poteau.
Salut.
Qui est là,
ouais,
qui a
bienvenue
des trucs
à
dire aussi. Ouais, bienvenue à toi. Écoute, je sais pas, est-ce que tu veux rentrer tout de suite
dans
le vif du sujet, dans l'art?
C'est parti, parlons peu, parlons bien, parlons Palestine. Janvier 2026, mais ce serait pas plutôt l'occasion de parler du Venezuela, parler de pétrole, d'or, de minerais? Non, on va plutôt parler de gaz, à Gaza. On savait que les criminels financeurs et les armateurs du génocide avaient un appétit pour l'immobilier et imaginaient déjà leur Riviera sur les ruines de Gaza, avec des rêves de profit démesurés et le jeune gendre de Monsieur Orange à la tête du business. Et on trépignait depuis cet été, on trépignait, ça y est, mais quoi donc? Mais l'accord enfin! L'accord. L'Égypte a finalement signé, le 17 décembre dernier, un accord record de 35 milliards de dollars pour le gaz israélien, triplant presque ses importations en provenance des champs gaziers du Léviathan, le monstre marin, et marquant le plus grand accord d'exportation dans l'histoire d'Israël. Les champs de gaz concernés sont dans les eaux nationales israéliennes, mais la Palestine est illégalement occupée et enclavée par Israël. Gaz à bord de la mer, mais les conditions du blocus interdisent sans sommation toute tentative de navigation, de pêche, alors l'extraction de gaz au bénéfice des Palestiniens, c'est pas vraiment en haut de l'agenda de ceux qui se rêvent en nouveaux conquérants. Cet accord annoncé par la société énergétique israélienne NewMed, l'une des trois copropriétaires du domaine, avec la société Ratio et l'américaine Chevron Corporation. Ah tiens, mais c'est pas aussi au Venezuela que Chevron est... Bref. L'accord gazier transférera environ 130 milliards de mètres cubes de gaz naturel à l'Égypte d'ici 2040, contre 35 milliards de dollars versés aux caisses publiques d'Israël. Avec ce nouveau contrat, les entreprises concernées renforcent donc leur complicité dans les crimes israéliens. Dans son rapport de juillet 2025, intitulé « De l'économie de l'occupation à l'économie du génocide », la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, souligne la responsabilité de ces entreprises et des États qui en tirent profit, parmi lesquels la France. Du fait de son engagement sans faille, 4 rapports accablants en 2 ans, Francesca Albanese fait l'objet de sanctions par l'administration américaine. Pas de visa américain, avoir financier gelé alors que sa famille vit là-bas. Les causes de ces sanctions, pour les autorités américaines, ce sont, je cite, « ces efforts illégitimes et honteux visant à inciter la Cour pénale internationale à agir contre ses responsables, des entreprises et des dirigeants américains et israéliens ». Fin de citation. Ce qui lui vaut ces sanctions, c'est donc de faire son boulot, son mandat, le droit international, quoi. Et comme le pétrole, le charbon et le gaz alimentent les infrastructures qui renforcent l'occupation israélienne et massacrent les Palestiniens, les appels à un embargo énergétique sur Israël vont de pair avec les appels à un embargo sur les armes. La Colombie a ainsi imposé un embargo sur le charbon israélien et les syndicats pétroliers brésiliens font pression sur le gouvernement pour qu'il mette fin à l'exportation de pétrole vers Israël. Alors qu'aujourd'hui le régime colombien soit menacé par les États-Unis d'un autre coup d'état militaire après le Venezuela samedi dernier, n'est sûrement pas un hasard. Tiens, à l'oreillette on me demande, et l'Union Européenne, que fait-elle? Elle fait du commerce, beaucoup, mais pas d'embargo pour Israël. Parlons maintenant de dangereux terroristes créés en 2020. Palestine Action, basé en Grande-Bretagne, se présentait sur son site internet, dont l'accès est désormais bloqué, comme un mouvement d'action directe engagé à mettre fin au soutien mondial au régime génocidaire et d'apartheid d'Israël. Le groupe a multiplié les actions d'occupation, de peinture, de dégradation, principalement sur des usines de production de drones ou d'autres armements appartenant à Elbit Systems ou des filiales, des transporteurs ou le siège du groupe, etc. En août 2024, alors que la guerre génocidaire menée par Israël dans la bande de Gaza tue chaque jour, 6 militants britanniques pénètrent dans un centre de recherche, de développement et de production appartenant à Elbit Systems, principal fournisseur d'armes d'Israël, à Filton, près de Bristol, en Angleterre. Une fois à l'intérieur, ils démantèlent du matériel, notamment plusieurs drones quadricoptères couramment utilisés par l'armée israélienne pour tuer des civils. La réaction des autorités britanniques est à la hauteur de leur soutien à Israël. Les 6 militants sont arrêtés sur les lieux mêmes de l'action. 4 autres sont interpellés par des policiers antiterroristes dans différentes régions du pays et tous sont placés en détention provisoire. Pendant leur détention, chacun des 10 individus est détenu sans inculpation pendant près d'une semaine, interrogé à plusieurs reprises en vertu de la loi antiterroriste. Une référence à cette loi utilisée comme prétexte aux yeux de l'opinion publique pour marquer la gravité des faits, alors qu'au final, ils sont inculpés pour des infractions qualifiées comme non terroristes. En novembre 2024 et juillet 2025, de nouvelles descentes de police conduisent à l'arrestation de 14 personnes supplémentaires, inculpées des mêmes faits, placées en détention provisoire elles aussi, venant s'ajouter aux 10 déjà en prison. Elles sont donc désormais connues sous le nom des Filton 24. En juillet 2025, les parlementaires britanniques votent en faveur de l'interdiction de Palestine Action, désormais considérée comme une organisation terroriste par l'État britannique. Pourquoi ? Parce qu'un groupe de ces militants s'est introduit sur la base aérienne de la Royal Air Force, à Bryce Norton et a maculé de peinture rouge deux Airbus A330 MRTT. Utilisé aussi en soutien à l'armée génocidaire israélienne. Le préjudice estimé par les autorités de 7 millions de livres sterling, environ 8 millions d'euros. Suite à ça, des centaines de personnes manifestent leur soutien au prix de 2300 arrestations au total pour avoir brandi des pancartes « Je m'oppose au génocide, je soutiens Palestine Action ». Et aujourd'hui, environ 250 personnes sont encore inculpées pour soutien à une organisation terroriste. De ces Filton 24 en détention provisoire en attente de leur procès depuis un an, aujourd'hui, 8 sont en grève de la faim, dont certains depuis 66 jours à l'heure où je vous parle. Kesser Zuhra, Amu Jib, Kamran Ahmed, John Sink, Tiuta Oja, Eba Muraisi, Lewi Caramelo et Mohamed Umer Khalid. Leurs revendications comprennent une libération sous caution immédiate, la levée de l'interdiction de Palestine Action et la fin des restrictions sur leur communication. Mais comme le ministre de la Justice David Lamy fait mine de ne pas connaître le dossier, refuse tout commentaire ou de recevoir les proches des prisonniers, cette grève de la faim et les conséquences dramatiques qui pourraient en résulter à cause de l'intransigeance du pouvoir travailliste peut rappeler la grève de la faim de Bobby Sands et des militants républicains irlandais que Margaret Thatcher avait lâchement laissé mourir en 1981. Ah, j'entends dans l'oreillette que dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, il y aurait eu un sabotage en Écosse visant un sous-traitant, Brunton Aero Products, de Leonardo et BAE Systems, des entreprises fabriquant des composantes du F-35, cet avion de combat américain très largement utilisé dans les bombardements civils à Gaza. Et oui, des personnes se seraient introduites sur le site dans la nuit du réveillon et auraient vandalisé quelques ordinateurs, et inscrit à la peinture quelques slogans motivés. Voilà, alors après les interdictions de drapeaux en manifestation, de pastèques, de kéfier en France, en Angleterre, en Allemagne, de conférences, de projections de films, et dans le contexte où chaque événement est utilisable par les oppresseurs pour restreindre les libertés d'organisation et d'expression, toujours en Grande-Bretagne, il est donc désormais interdit en manifestation de crier ou de chanter le slogan « Globalize Intifada », ce qui signifie « mondialiser l'Intifada ». Intifada qu'on peut traduire par « soulèvement » et qui fait évidemment référence au soulèvement des pierres des années 80 et au soulèvement de la deuxième Intifada des résistances palestiniennes à l'oppression israélienne. Donc les soutiens à la résistance palestinienne en Angleterre ont transformé le slogan « Globalize Intifada » en « Mukawama », ce qui signifie « la résistance ». Alors, terroristes sont les plus grandes ONG de droits de l'homme palestiniennes, selon Israël. Terroristes, les manifestants en Grande-Bretagne. Terroristes, les organisations en France. Terroristes, les grévistes de la faim. Terroristes, tous ceux, en fait, qui dénoncent la terreur. Dans le même registre, mais en France cette fois, les députés s'apprêtent à discuter la proposition de loi numéro 575, je cite, « visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme ». Cette loi déposée le mardi 19 novembre 2024 par la députée Caroline Yadan. Vous savez, la députée des Français de l'étranger, ceux qui ont voté Zemmour à 53% en 2022, Cette loi est à présent inscrite à l'ordre du jour de la commission des lois de l'Assemblée nationale. C'est pour bientôt. Cette loi, sous couvert de lutte contre les formes renouvelées d'antisémitisme, vise surtout à élargir les motifs de poursuite pour apologie du terrorisme et à assimiler l'antisionisme, c'est-à-dire la critique du sionisme comme idéologie et la critique de la politique d'Israël, à l'antisémitisme, c'est-à-dire la discrimination envers les personnes de confession juive. L'idée est donc de rendre illégale la critique de la politique de l'État d'Israël pour la faire disparaître du débat public. Alors qu'il est légitime, légal, juste et bienvenu de dénoncer cette politique criminelle d'Israël et le génocide des Palestiniens. Le génocide des Palestiniens de Gaza, parlons-en justement, puisque les médias n'en parlent plus du tout. Le ministère de la Santé de Gaza recense plus de 70 000 morts directs et près de 10 000 disparus. Mais d'autres décomptes de l'ensemble des décès directs et indirects causés par les deux ans de guerre à outrance sont évalués à près de 10 fois ce chiffre, 680 000 victimes. Disons-nous que rien n'est terminé là-bas, que Gaza a juste disparu de nos écrans. Et c'était l'objectif du cessez-le-feu, faire disparaître Gaza, dont le martyr commençait à susciter trop de soutien international. Les attaques meurtrières d'Israël se poursuivent, plus de 400 personnes ont été tuées depuis le cessez-le-feu. Et la mort s'impose aussi par tous les autres moyens. Bâtiments effondrés, bombes non explosées, inondations, hypothermie, famine et maladies, autant de productions de la stratégie génocidaire israélienne. Et au quotidien, le manque absolu de tout pour ces 2 millions de personnes, ni eau potable, ni vivres, ni médicaments, alors que tout le nécessaire attend à quelques kilomètres au point de passage bloqué par l'occupant. Comme le dit Enam Abu Zayed, une jeune écrivaine palestinienne, Gaza est entrée dans une nouvelle phase du génocide. Un massacre de faible ampleur qui ne fait pas les gros titres parce qu'il n'est pas aussi explosif que les campagnes de bombardement en tapis. Mais le résultat final est le même, l'extermination de la vie palestinienne à Gaza. Et une nouvelle annonce de l'occupant au moment des fêtes. D'ici quelques semaines, 37 ONG se verront expulsés de Gaza, parmi lesquels MSF. L'ONG, malgré son expérience de quasi 50 ans dans un sacré nombre de pays pourris, vit cet événement pour la première fois de son histoire. Ça donne à réfléchir. Écoutons aussi les mots de Kassem Walid, un jeune médecin de Gaza. Qu'est-ce qui pousse toutes ces personnes à s'accrocher à la vie, après avoir perdu leur maison, leur travail et leurs proches? D'après ce que je sais, ce n'est pas l'espoir, mais un mélange d'impuissance et d'acceptation du destin. C'est peut-être parce qu'à Gaza, le temps s'est figé. Ici, le passé, le présent et l'avenir se déroulent simultanément. Le temps ici n'est pas une flèche, il ne file pas. C'est un cercle qui fusionne les débuts et les fins, entre lesquels se trouvent d'infinis épisodes d'agonie terrifiante. Nous ne pouvons même pas prendre de bonnes résolutions pour la nouvelle année car nous n'avons aucun contrôle sur nos vies. Je veux manger moins de sucre, mais Israël pourrait le faire à ma place en bloquant à nouveau toute l'entrée de toute nourriture à Gaza. Je veux apprendre à nager, mais Israël pourrait me tirer dessus si je mets le pied dans la mer. Je veux replanter mon jardin, mais je ne peux même pas m'en approcher. Je veux emmener ma mère à la Mecque pour visiter la mosquée Al-Haram, mais Israël ne nous autorise pas à voyager. La seule résolution que je puisse prendre pour la nouvelle année est probablement de m'habituer aux douches froides. Le manque de gaz et de bois de chauffage pourrait bien faciliter la réalisation de ce souhait. À Gaza, il n'y a rien à planifier, mais tout à souhaiter. C'était Kassem Walid. Alors, janvier 2026, l'heure des résolutions, paraît-il. Je me dis qu'en France, on a de la marge pour arriver à être solide comme les camarades en Grande-Bretagne ou comme le million de manifestants en Italie. Je me dis que la libération de la Palestine commence ou continue dans nos esprits, encore coloniaux, encore colonisés. Elle se poursuit ici, partout, tous les jours, au coin de la rue, dans nos discussions, dans nos imaginaires, dans notre quotidien, en boycottant tout ce qui finance l'occupation. Spotify! Eh ouais, désolé. Airbnb, désolé. Carrefour, BNP, AXA, SodaStream. Allez voir le site de BDS France, il y a toutes les infos. Ça continue dans les campagnes pour la libération des prisonniers palestiniens, là-bas et ici. Allez voir la campagne Libérer Ali, un prisonnier palestinien enfermé en France à la demande, à la demande d'Israël et qui risque une expulsion là-bas. Et les personnes solidaires enfermées aussi. Ça continue dans les blocages des entreprises complices, les entreprises de banque, l'armement. Ça continue en luttant contre l'extrême droite qui est en totale roue libre dans notre vieux pays puisque ni elle ni ses homologues génocidaires ne prennent souvent de vraies gifles ni de véritables sanctions. Sauf quand même par quelques groupes de résistance armée et puis par quelques bons millions de citoyens mobilisés partout autour du monde prêts à se faire traiter en terroristes. Et d'ailleurs on entendra très bientôt parler de la nouvelle flottille internationale qui prépare son prochain départ au printemps. Alors 2026, souhaitons-nous de ne pas délaisser notre solidarité avec les Palestiniens et les Palestiniennes. Au contraire, intensifions la lutte. Ils et elles résistent dans un environnement plus violent que jamais, de Gaza à la Cisjordanie, de Jérusalem à ceux vivant en Israël et tous les exilés. Ils et elles ont besoin de notre plein engagement. Souhaitons-nous de la solidarité, du courage, de la détermination, un élan révolutionnaire qui ne tarisse pas. Souhaitons-nous d'être si forts et si fortes et si nombreuses que nous terrorisions les terroristes qui veulent nous faire passer pour des terroristes parce qu'ils sont terrorisés. Et pour finir, on va écouter Minerhabi de Dame, un classique du rap palestinien de la seconde intifada qui pose la question « Mais qui est terroriste quand moi je vis dans mon pays et que toi tu bombardes mon pays ?»
Minerhabi, Minerhabi. happy, mean it happy, mean it happy, mean it happy, mean it happy, ain't that happy, mean it 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 happy, ain't that happy, mean it happy, انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت اجدادي اجل القانون عن فاضي ما انت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر اكترية ديمقراطية والله انكم نازية من كتر ما اغتصبتوا النفس العربية حبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا ارهابية يعني ضربني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت نطيت وحكيت ما انتو بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الحجار وعلى لما وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا راح اضلي انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يقضي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمة بشد ورا همة بيكون زلمة تعملوا منه رمة ومين انتو لسه امتى خبرتو اتصلوا قديش قتلتو قديش قدمتو امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا انا بقولكم مين انتو انتو خبرتو بدلا احنا كبرنا فقر مين كبر فوسع ومين كبر فجحر صار في دائع عملتو منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي
مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي امتى ببطل ارهابي لما تضربني كف واعطيك خدي تاني كيف تتوقع مني اشكر الاذاني تعرف ايش انت قولي كيف دخياني راكع ركبي وايدي مربطات عيون بالارض وجثث مزتتات بيوت مهدومة عائلات مشردات اطفال يتيمة حرية بكلبشات انت عمر انت قتل احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنصدر اهم شي انك تحس بامان اتريح وسيب لنا الالام معه دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دمي غالي راح ادافع حالي لو تناديني ارهابي
مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي انت ارهابي
On va enchaîner, on va continuer à parler de Palestine, on va continuer à parler de, de l'Europe démocratique qui voudrait terroriser ceux qui considèrent terroristes, alors que c'est eux les terroristes, c'est l'État les terroristes. Et on va parler de la répression en Italie, suite au grand mouvement de solidarité avec le peuple palestinien qui est eu entre les mois d'octobre et novembre. Et comme on avait déjà dit dans les émissions d'avant, il y a eu des grandes actions contre l'industrie militaire, notamment l'industrie Leonardo, qui est complice du génocide à Gaza, et contre l'État et contre tous les prétendus politiciens démocratiques qui ne font que de la langue des bois pour continuer à justifier ce qui se passe là-bas. Et fin novembre, les locaux du journal La Stampa, l'équivalent du Figaro, et relais des idées colonialistes et génocidaires, avaient été envahis lors d'une manifestation pour la Palestine. L'intérieur de la rédaction avait été chahuté. Cette action avait été très commentée par les autorités, par les médias, qui avaient accusé sans preuve le centre social Ascatasuna d'être responsable. Et en vrai, le gouvernement de Meloni cherchait surtout à se venger de l'immense mouvement pour Gaza qui s'était manifesté en Italie, avec des millions de personnes dans la rue, des grèves et des blocages. Il fallait donc faire un exemple. Le 18 décembre, la DIGOS, la police politique italienne, équivalent de notre DGSI, mais avec des méthodes encore plus mafieuses, accompagnée de 200 policiers anti-émeute, est donc entrée à l'aube dans cet immeuble à perquisitionner les lieux, puis à barrer les accès au bâtiment, chassant les personnes qui y habitaient. Et puis le 28 décembre, des arrestations de 6 personnes, dont Mohamed Hanoun, 63 ans, un architecte palestinien installé à Gênes, qui vit en Italie depuis plus de 40 ans, président de l'Association des Palestiniens en Italie et fondateur de l'Association caritative de solidarité avec les peuples palestiniens, et quelqu'un qui était très actif pour dénoncer les pour dénoncer les génocides à Gaza. Quelqu'un qui, avec tous les autres gens de cette organisation, avait œuvré pour briser le blocus de Gaza en collectant des fonds destinés à soutenir les Palestiniens de Gaza, en fournissant l'aide et le soutien nécessaire à des projets humanitaires et civils, tandis que le régime sioniste tente de perpétrer son génocide en asphyxiant les peuples palestiniens par les sièges, la famine et les blocus. Eh bien, les forces antiterroristes italiennes ont perquisitionné les domiciles de Hanoun et d'au moins 6 autres Palestiniens qu'ils ont arrêtés. Parallèlement, le gouvernement italien a confisqué et gelé 8 millions d'euros de fonds et d'actifs destinés à soutenir les peuples palestiniens. Ça fait tout un scandale en Italie en disant que ces organisations soutenaient Hamas. En vrai, évidemment, les gens ils envoyaient de l'argent pour des projets là-bas pour soutenir la vie, les peu de vie encore qui peut exister au niveau d'écoles, au niveau d'hôpitaux. Hanoun avait été déjà expulsé de Milan en 2024 par les autorités locales pour avoir dénoncé les agissements des hooligans sionistes à Amsterdam et soutenu des jeunes défendant leur quartier contre des attaques racistes. Peu après la levée de cette interdiction, Milan lui avait de nouveau interdit l'accès à la ville pour avoir affirmé les droits du peuple palestinien de sa résistance, à demander des comptes aux collaborateurs et à rendre justice immédiatement après le cessez-le-feu. Il est troublant que ces arrestations surviennent quelques jours après la visite très controversée du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas Abu Mazen à la conférence des Frères d'Italie, parti néofasciste italien actuellement au pouvoir, qui s'était tenu à Atreyu du 6 au 14 décembre, où Abu Mazen a embrassé Meloni. Les organisations palestiniennes à travers l'Italie, notamment l'API dirigée par Hanoun, ainsi que les jeunes palestiniens d'Italie, l'Union démocratique arabo-palestinienne et le mouvement des étudiants palestiniens en Italie, avaient dénoncé la présence d'Abu Mazen, soulignant que Meloni et son gouvernement sont poursuivis pour la complicité dans le génocide de Gaza, alors même que Abu Mazen les embrasse. Ils ont fait remarquer que cela met en évidence la collaboration continue de l'autorité palestinienne avec le sionisme et l'impérialisme contre le peuple palestinien, ainsi que sa coordination sécuritaire avec Israël et la répression de la résistance en Cisjordanie. Ils ont exigé que l'Italie rende des comptes pour sa complicité dans le génocide et la libération des prisonniers politiques palestiniens détenus dans les prisons italiennes, affirmant que la résistance est la seule représentante légitime du peuple palestinien. Si c'est pas assez clair, du coup, Abu Mazen, c'est le président de l'autorité palestinienne. C'était quelqu'un qui venait de l'expérience de l'ELP. C'était considéré comme le successeur d'Arafat, sauf que finalement, il a vraiment œuvré pour la répression à l'intérieur de la Cisjordanie contre ceux qui luttaient contre l'État d'Israël. Et du coup, de plus en plus, en fait, il s'est comporté comme un collaborateur de l'État israélien en Palestine, en Cisjordanie. Et du coup, voilà, c'est pas étonnant que finalement, il se retrouve avec le gouvernement italien, ça, en mode, genre, comme si le gouvernement italien, il avait soutenu de quelque manière les peuples palestiniens, alors qu'ils n'ont fait que soutenir le génocide d'Israël. Voilà, du coup, on va passer maintenant à un poème d'un poète palestinien, Mahmoud Darwish.
Ouais, carte d'identité. Bon, on s'écoute ça.
Inscrit, je suis arabe. Tu m'as spolié des vignes de mes ancêtres et de la terre que je cultivais avec tous mes enfants. Et tu ne nous as laissé, ainsi qu'à notre descendance, que ces cailloux. Votre gouvernement les prendra-t-il aussi, comme on le dit ? Alors, inscrit, en tête de la première page, moi, je ne hais pas mes semblables, et je n'agresse personne. Mais, si jamais on m'affame, je mange la chair de mon spoliateur. Prends garde. Prends garde à ma faim et à ma colère.
Ouais. Voilà. On a passé ce petit moment sur ce moment. Pourquoi je dis toujours petit, je ne sais pas. Ce moment sur la Palestine. Je pense que nos auditeurs ont bien compris, je l'espère en tout cas, ce qui se passe là-bas. Ben et oui. Que du coup, il ne faut surtout pas oublier. Ce n'est pas parce que ce n'est pas à la télé et qu'on nous parle que du budget ou ce genre de conneries que... Il se passe pas des choses dégueulasses dans cette partie du monde.
Ah oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'on voudrait nous faire croire toujours qu'il y a une sorte d'échelle de... Il y a toujours quelque chose qui se passe, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier ce côté-là. Et ça souffre encore, hein, malgré tous les cessez-le-feu, malgré tout ça. Là, j'ai vu l'attaque d'une université...
Birzeit,
qui a été... Où les élèves, 8000 élèves, ont été gazés et chassés de...
Et 11 blessés, l'attaque a eu lieu hier, et en fait, l'armée israélienne a déboulé sur le campus de l'université de Birzeit.
Ouais. Voilà. Normal.
Eh ben, ça nous permet de continuer sur... l'actualité mondiale, c'est-à-dire la guerre.
La guerre, hein. Exactement.
D'ailleurs, il y a un collectif en France qui s'est monté qui s'appelle Faire la guerre à la guerre. Hein. Du coup, renseignez-vous, c'est plutôt intéressant ce qui est proposé. Et ça grossit de plus en plus. Hein. Bah, oui. Y a plein de gens qui réagissent à ça. Du coup, on va enchaîner sur ça, les désirs de guerre... qui sont fomentés par une partie de la population et de comprendre les rouages, le pourquoi du comment.
Ben oui.
Moi, je voulais vous lire un petit texte. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez que c'est le moment je voulais vous lire un petit texte. D'ailleurs, je voulais remercier Blast aussi pour cette capsule avec le poème de Mahmoud Darwish, « Carte d'identité ». Voilà, hein, toujours soutenir les médias indépendants. Et là, c'est pareil, je vais vous lire un article sur la guerre. Il y a 107 ans, s'achevait la plus effroyable boucherie que l'Europe ait alors jamais connue, la Première Guerre mondiale. 4 années de conflit, 10 millions de morts, 40 millions de blessés et de mutilés. Des hommes défigurés, invalides, traumatisés, une génération entière sacrifiée. 11 départements français, 3000 communes dévastées par les combats. Sur des kilomètres, la désolation, des trous d'obus, de la terre, des tranchées, du sang. La Première Guerre mondiale est une boucherie industrielle. 1 milliard d'obus tirés. Les premiers gaz militaires et les premiers avions de guerre expérimentés. Les soldats sont précipités dans un massacre mécanique sans commune mesure avec les conflits précédents. Comme toujours en France, on trouve aux commandes des gouvernements comme à la tête de l'armée des fous dangereux, des généraux aussi incompétents qu'avides de sang envoient à la mort des hommes par dizaines de milliers. En 1917, le généralissime Nivelle sacrifie 350 000 soldats en quelques jours pour un résultat plus qu'inexistant. Le général Joffre, qui a donné son nom à tant de rues et de places en France, préconise une technique terrifiante, la furia française ou offensive à outrance. Le principe est simple, envoyer des masses de fantassins équipés de baïonnettes face aux obus et mitrailleuses allemandes. Les soldats n'ont aucune protection, vêtus de tenues en tissu. Résultat, plusieurs centaines de milliers de morts en quelques jours dès le début de la guerre. Joffre et Nivelle ne répondront jamais de leurs crimes. Par contre, ceux qui refusaient d'aller à la mort étaient fusillés pour l'exemple. La guerre des tranchées, ce sont aussi plusieurs centaines de milliers de civils, hommes, femmes et enfants qui meurent de famine à l'arrière, alors que le gouvernement dispense des sommes astronomiques en armement. Ce sont des troupes d'hommes venus des colonies françaises, anglaises, envoyées en première ligne pour mourir dans des champs à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux. La guerre des tranchées est la première opération concertée de propagande moderne. Les médias allemands, français et anglais et autres vont endoctriner méthodiquement la population pour les envoyer au massacre. On flatte les instincts nationalistes, on parle de guerre juste. On invente les plus gros mensonges pour pousser des peuples à s'entretuer. Durant toute la guerre, la presse française fait preuve d'un zèle total pour mentir, manipuler la population. Cette guerre n'a été déclenchée que pour satisfaire les délires revanchards des gouvernements français et allemands et pour enrichir les marchands de canons. On croit mourir pour la patrie. On meurt pour des industriels, écrivait très justement Anatole France peu après le conflit. Cet immense gâchis, cet océan de souffrance, pourquoi ? Rien, pire que rien. Cette guerre sera la mère de toutes les autres. 20 ans plus tard, un deuxième conflit dévaste l'Europe et le monde. Ses racines remontent à la guerre de 14. Le totalitarisme, les totalitarismes sont nés de cette Europe meurtrie, militarisée, brutalisée. Hitler et Mussolini, anciens soldats, sont les purs produits des tranchées. Ils veulent continuer la guerre, imposer un ordre nouveau, nationaliste et autoritaire. La Première Guerre mondiale, c'est aussi l'une des plus grandes trahisons des socialistes et des syndicats qui avaient juré de ne pas laisser les peuples s'entretuer, car les opprimés de tous les pays ont les mêmes intérêts. Mais en France, au moment de la mobilisation générale, la CGT n'appelle finalement pas à la grève et se rallie à l'union sacrée et à la propagande de guerre. En Allemagne, seule une infime partie du Parti Socialiste va œuvrer pour la paix dans la clandestinité et sera durement réprimée. Aujourd'hui, les nuages de la guerre menacent, comme au siècle dernier, un conflit sanglant au fond des tranchées mais survolé par des drones est déjà en cours en Europe. Des blocs s'affrontent de nouveau. Les fascistes sont au pouvoir dans de nombreux pays et ne cachent pas leur désir de guerre, de prédation et de conquête. Le gouvernement français ne parle que de réarmement et de sacrifice. Il tente d'embrigader la jeunesse et débloque des milliards pour la guerre. Le capitalisme est de plus en plus sauvage face à l'international autoritaire et militaire qui se constitue. De Washington à Budapest, de Moscou à Paris, il est vital de reconstruire un international social anticapitaliste révolutionnaire pour que jamais ne revienne la guerre entre les peuples. Voilà.
Et ouais.
voilà, hein, voilà. C'est ce qu'on vit. Hein. Il y a des échos du passé qui résonnent de manière plus que nauséabonde dans l'actualité moderne, dans notre réalité. Je vous propose qu'on écoute peut-être une capsule qui nous explique un petit peu le pourquoi du comment et qui gagne de l'argent là-dedans. Hein, justement, ce capitalisme meurtrier qui se sent acculé et qui n'a que comme ressort de pousser les gens à s'entretuer pour se faire encore plus d'argent et pour renaître de ses propres cendres, tel un phénix de l'argent, là, tu vois. Ouais. Donc voilà, bah, si vous êtes chaud, on s'écoute.
Allez.
Ça.
Ouais.
On a 50 milliardaires en France. Dans son rapport sur l'héritage de septembre 2024, Oxfam estime que 25 d'entre eux, qui ont plus de 70 ans, vont transmettre un patrimoine dont la valeur cumulée tourne autour de 460 milliards d'euros. En 2024, on a vu popper 9 nouveaux milliardaires, dont 7 sont des héritiers. Et puis aussi, un quart des milliardaires français est issu d'une de ces trois familles. Sauras-tu deviner lesquelles ?
Arnaud Pinault-Bolloré ?
Perdu, c'était Dassault, Besnier et Saadé. Surtout Dassault, en fait. Ils sont 6.
C'est qui, Besnier ?
C'est ceux qui possèdent Lactalis.
Ah, les produits laitiers. Des sensations pures.
Bon, des milliardaires chez nous, même si on n'est pas le pays européen qui en compte le plus, on n'en manque pas. Et ils sont plutôt bien au chaud, puisque d'après l'économiste Gabriel Zucman, la France est un véritable paradis fiscal pour milliardaires. En effet, grâce à un petit montage qui consiste à faire tomber leurs dividendes dans une holding plutôt que directement sur leur compte, eh ben ils ne sont taxés qu'à hauteur de 1,8% de leurs revenus réels. Bon, donc on a des milliardaires chez nous, ils héritent ou vont bientôt hériter de la fortune de papa. Ah oui, parce que c'est pas un environnement qui a l'air de laisser beaucoup de place aux femmes, hein, l'héritage des milliardaires. Allez lire l'enquête du Monde sur les grandes successions françaises, c'est quasi que des histoires de patriarches, pseudo-dictateurs, machos et mégalos. Je te raconte pas le diagnostic psychologique des enfants qui grandissent là-dedans. Hein.
Les ultra-riches refilent leur entreprise à leurs enfants, des dynasties capitalistes se créent. Et alors, c'est quoi les conséquences pour nous ?
Eh ben, on a un champ d'études en économie politique qui s'appelle « démocratie inégalitaire », qui étudie la manière dont les inégalités affectent les décisions législatives. Ce que ce champ trouve, et notamment dans ce papier de 2018, c'est que le creusement des inégalités ne semble pas encourager les politiques à lutter contre ce phénomène. Pourtant, dans les sondages, les gens disent bien que les inégalités sont un problème pour eux. Mais malgré tout, les politiques ne s'emparent pas du sujet.
Et parmi les raisons qui expliquent ça, les lien étroit entre le pouvoir politique et les grands capitaines d'industrie y est certainement pour beaucoup.
D'ailleurs, plutôt que de parler de capitaine d'industrie, on pourrait dire autocrate ou dictateur, parce que le monde de l'entreprise, c'est clairement pas la démocratie. Et puis quand on constate que ces autocrates font hériter leurs enfants, bah là, ça ressemble carrément à de l'aristocratie, quoi.
Les grands barons du capitalisme font hériter leurs enfants et décident des lois. Est-ce que c'est vraiment le monde dans lequel on veut vivre ?
Oui, oui, oui. Est-ce que c'est vraiment le monde dans lequel on veut vivre ? Moi, je dis non.
Ah non, non.
Très clairement, on n'a pas envie de vivre là-dedans.
Et pourtant, il n'y avait pas une invitation à emmener nos enfants à la guerre, là, par
Ah bah si, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bah, bien sûr, bien sûr, hein, c'est ce que...
Encore un effort de guerre, quoi.
Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, c'est ce qui était dit dans le texte, déjà, à l'époque de la guerre de 14-18, la manipulation, tu vois, pour dire que c'est des guerres justes, pour sauver, tu vois, tu vois, de nous sauver contre l'invasion russe ou... Ou je sais pas, tu vois. C'est quoi la prochaine ? Si, la prochaine, là, on est en train de parler du Groenland, non ?
Tu vois, ouais, c'est ça. Voilà.
Les narcoterroristes.
Ou les narcoterroristes, tu vois, ce genre de truc-là, quoi.
Les narcoterroristes de Groenland.
Voilà,
c'est ça.
Ouais, ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair.
On les connaît bien, ceux-là.
Ouais, ouais.
Ils sont dans la blanche fort.
Est-ce qu'on continue sur des capsules sonores?
Moi je voulais présenter quelque chose aussi, ouais. C'est parce que ici on parle de beaucoup de choses horribles qui nous écrasent un peu, mais c'est bien de donner de l'écho à ceux qui luttent, ceux qui luttent aussi.
Exactement.
Quelque chose qui peut nous donner un peu du courage aussi,
et
de savoir qu'il y a quand même de multiples manières de s'opposer à ce système injuste. Et moi, je voulais parler du coup d'un sabotage qui n'est pas les premières et qui ne sera pas les dernières, j'imagine. Et un sabotage revendiqué par les groupes Volcan en Allemagne, à Berlin. Et bien, samedi 3 janvier, vers 6h30 du matin, il y a eu un incendie de plusieurs câbles à moyenne et à haute tension de la centrale électrique, au gaz fossile de Berlin. Cela a eu pour conséquence d'interrompre la fourniture d'électricité de 2000 entreprises et de 45 000 foyers, soit 100 000 personnes, dans différents quartiers aisés du sud-ouest de la capitale allemande. Concrètement, une vingtaine de lignes de 110 kV ont été touchées par cet incendie volontaire à l'endroit où elles franchissaient le canal de Teltow sur une passerelle dédiée déconnectant du réseau de la partie électricité de la centrale, tandis que sa partie chauffage urbain était préservée. Ce sabotage a provoqué également une déconnexion des antennes de téléphone portable ainsi que l'annulation de multiples trains et la fermeture d'une vingtaine d'écoles. Rappelons qu'en mars 2024, le même groupe Volcan avait revendiqué avec un communiqué qui s'appelait « Étendre Tesla » l'incendie d'un pylône à haute tension à Berlin alimentant la gigafactory de cette entreprise, tandis qu'en septembre 2025, des anarchistes avaient déjà provoqué un blackout partiel de la capitale allemande lors du sabotage antimilitariste d'un pylône alimentant les plus grandes parcs technologiques d'Europe. Et on a prévu une petite lecture sur fond de musique de certains extraits du communiqué de revendication de cette action. Et tout ça, c'était trouvé sur Internet, sur un site qui s'appelle sanson.noblogs.org, si vous voulez aller voir, c'est très intéressant.
Eh bien, on s'écoute ça tout de suite.
Allez.
Allez.
Bonne année 2026. Courage. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des riches. Nous pouvons provoquer la fin du mode de vie impérial. Nous pouvons mettre un terme à la surexploitation de la terre. Dans sa soif d'énergie, la terre est épuisée, vidée, brûlée, maltraitée, incendiée, violée, détruite. Les régions entières deviennent inhabitables sous l'effet de la chaleur. Elles brûlent, tout simplement. Bien des habitats disparaissent sous les flots lors d'inondations ou en raison de l'élévation du niveau de la mer. Fermer les centrales à combustible fossile est un travail manuel. Courage. Nous savons que nous devons mettre fin à cette destruction. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Ne perdez pas espoir en un monde où la vie a sa place, plutôt que la soif d'argent, de pouvoir et de destruction. Cette nuit, nous avons saboté avec succès la centrale à gaz de Berlin. Les coupures de courant ont eu lieu dans les quartiers aisés. Les coupures de courant des habitants n'étaient pas le but de notre action. Notre cible était l'industrie des énergies fossiles. Nous présentons nos excuses aux personnes moins aisées du sud-ouest de Berlin. En revanche, notre compassion pour les nombreux propriétaires de villas de ces quartiers est limitée. L'attaque contre la centrale à gaz est un acte de légitime défense et de solidarité internationale avec tous ceux qui protègent la terre et la vie. Les infrastructures qui servent à l'attaque technologique et favorisent la destruction de la terre peuvent être sabotées. La production d'énergie fossile peut être arrêtée. Les métropoles Smart City comme Berlin est en passe de le devenir peuvent être bloquées. Il va sans dire que nous avons exclu à chaque instant tout danger pour la vie humaine. Les attaques concrètes contre le parc technologique en septembre 2025, contre la Gigafactory de Tesla en mars 2024, contre l'infrastructure de la centrale à charbon Reuter en juin 2023 et contre le nœud de communication de Vodafone en août 2025 sont des points de référence pour notre attaque, tout comme les nombreuses actions militantes qui mettent l'accent sur la destruction de notre planète. Même si ces actes de sabotage entraînent des pertes financières importantes, ils ne peuvent, en tant qu'action isolée, imposer un changement d'orientation politique. Mais ils indiquent une voie et une direction que nous recommandons à toutes les métropoles. Paralyser les infrastructures qui servent à l'attaque technologique et favorisent la destruction de la Terre. Le consensus sur la participation au projet d'un mode de vie impérial peut être rompu. Un mouvement social de masse contre la destruction mondiale des bases de la vie, contre toutes les guerres et le pillage des ressources, va de pair avec la capacité de saboter les réseaux électriques et les artères énergétiques. Mettre fin au pillage de la planète. Liberté pour les antifascistes, les militantes pour le climat et tous les autres rebelles.
Thank you. très cher. Quand ceux qui t'aiment doivent passer cet enfer. Mais nos rangs s'élargissent à chaque contrainte. Une vie de lutte contre toutes leurs atteintes. Et ton nom va résonner dans chaque ville, dans chaque quartier.
Voilà, voilà, bah, vous êtes de retour, on est toujours avec les poteaux.
Grave.
Sur Antifada. Là, c'était un morceau de Saccage, un groupe de Redskins parisiens antifascistes. Le morceau s'appelle Une vie de lutte. C'était un morceau en mémoire à Julien, qui était patron du Saint-Sauveur, un des premiers Redskins de Paname. On trouvait que c'était bien dans la suite Saccage, dans la suite de Sabotage.
Ouais, c'est exactement la suite logique.
Il y avait du lien, voilà. T'avais un autre truc à nous présenter ?
Ouais, moi je vous ai mis une petite capsule sonore d'un mec qui s'appelle Marc Chenet. Lui, c'est un économiste suisse et un professeur à l'université qui est un professeur de finance quantitative. Donc lui, il fait un parallèle de justement tout ce qui se passe en ce moment avec la guerre, les intérêts. Donc voilà, c'est un peu long, on vous laisse découvrir ce propos et nous on en parle, on se retrouve derrière.
Juste après, ouais.
Ouais, on en parle ensemble.
Ok, ça marche, on s'écoute ça tout de suite. Ah, attendez, hop, excusez-moi.
Pull up,
petit problème technique. On va faire comme ça.
La guerre est un business. Le sang se paye en dollars et les destructions se mesurent en rendement financier. Donc on a affaire à un monde cynique dans lequel les massacres sont perpétrés au nom de la vie, les mensonges sont perpétués au nom de la vérité et l'opacité est promue au nom de la transparence. Donc voilà, il faut bien intégrer tout cela, justement pour changer de direction. Les limites du néolibéralisme, on les a vus avec la crise de 2007-2008, soi-disant des marchés libres, efficaces, qui allaient régler les problèmes. Le système a volé en éclats en 2007-2008. Et ils accélèrent justement, ça le problème. Ils accélèrent dans cette direction en disant non, on ne veut pas moins de marché, on en veut plus. On en veut plus, encore soi-disant plus libre, etc. Ça, c'est une plaisanterie. Ça se transforme, enfin, ça devient apparent maintenant, ça devient clair, c'est une dictature, système vertical, où quelques individus se proposent tout simplement de dominer le monde. Ce n'est pas étonnant, vu leur logique. Mais ce à quoi on a observé tout de même ces derniers temps, en particulier en Europe, avec la réaction ou la non-réaction au dictat de Trump, c'est tout simplement incroyable. C'est une farce pitoyable, une farce de mauvais goût, une soumission anticipée de la part de politiciens, d'acteurs de troisième catégorie, qui n'ont cesse de vouloir satisfaire devenir qui ? Pas les gens qui ont voté dans les différents pays, qui ont voté pour eux ou pas, non. Le roi Donald. Mais c'est une dictature. Donc, on pourrait peut-être lui faire plaisir si on a acheté plus d'armes, plus de F-35 en Suisse, plus de pétrole, plus de gaz. Mais qui sont ces gens-là ? C'est une caricature des démocraties. En fait, il n'y a pas de démocratie, bon, ça c'est clair. On a affaire à un système mafieux, un système de racket organisé, et sans réaction. C'est vraiment incroyable. Donc la réaction, je m'attends à rien de ces individus qui dirigent en Europe. Mais stop, c'est-à-dire, bon, les autres, enfin nous, il faudrait peut-être ouvrir les yeux, puis dire, moi ça ne va pas, non ? Quel type de système allons-nous laisser aux générations à venir ? Un système corrompu au possible ? Des individus soumis à un système mafieux ? Non, donc il faut réagir, oui, c'est ça. Ces individus qui poussent à la guerre, ces politiciens qui poussent à la guerre, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont besoin de chair à canon. Donc il serait temps de réagir. Vous aviez un Jean Jaurès à Paris en 1914 qui a été assassiné. Et vous aviez tout de même une masse d'individus qui étaient contre ces charniers. Là, qu'est-ce qu'on a à gauche ? Prenez le cas de la France, parti dit socialiste, Glucksmann pousse à la guerre. C'est insupportable. Non, non, il faut réagir. Lorsque la productivité augmente de manière régulière, eh bien, ça devrait se traduire par plus de temps libre pour se former, pour profiter de la vie avec ses amis, sa famille, etc. Dans une société mortifère comme celle d'aujourd'hui, ça se traduit par de la pauvreté et du chômage. Donc ça, c'est déjà un dysfonctionnement majeur. Vous vous rendez compte de tout ce qui est consacré non pas à la production, mais à la destruction. Toutes les armes qui sont créées, les drones, les missiles pour tuer ici, là, de manière efficace, mais organisant cela pour la vie, pas pour la mort. Donc voilà, si au conditionnel, si la technologie actuelle était utilisée dans le cadre d'une autre société, pour développer la vie et non pas la mort, bien oui, on devrait le voir, parce que tous les moyens technologiques sont rassemblés, enfin, les principaux aujourd'hui, pour vivre mieux, en paix, mais non, parce qu'il y en a qui veulent toujours plus de richesses, plus de terres, plus de etc. Et c'est ça qui crée de profonds déséquilibres actuels.
Et ouais.
C'est ça. Ah,
mais c'est ça. Exactement ça, et c'est exactement ce qu'on a vu là.
C'est exactement ce qui se passe en ce moment.
Ce qui se passe en ce moment à ce qu'on a vu avec Trump là, et c'est ce fameux coup d'État là au Venezuela où le mec il déboule avec la DEA, il kidnappe le président, il l'amène aux États-Unis. Donc oui, il y a vraiment un intérêt.
Plus de droit international.
Il y a plus de droit international, ouais.
Si tant est qu'il eût existé
ouais.
Un jour. Ouais, effectivement, il y a plein de choses, qui correspondent aussi aux capsules qu'on a balancées plus tôt. Le partage des richesses, tu vois, et c'est ce qu'on disait déjà il y a un mois. Ce qu'il dénonce là, c'est le capitalisme, l'appropriation, le toujours plus, plus de terres, plus d'argent.
Et d'anticipation aussi. Tu vois, parce que ça n'existe pas depuis hier, hein. C'est pas Trump qui l'a mis en place, hein. Ça existe depuis par exemple un siècle aux États-Unis, ça a toujours été là. Mais c'est voilà quoi, c'est tout ce tout ce passif de colonisation, d'impérialisme, où si on n'a pas quelque chose aujourd'hui, c'est pas grave. On colonise, on vient, on prend, et ça sera pour...
Oui, puis c'est comme tu dis, c'est le retour en force de toute cette chose-là. Pour en revenir à Trump, il fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure entre nous en aparté, le Donro, qui est, tu vois, le mélange de son nom et de Monroe, qui est un président américain qu'on connaît peu, mais qui a été un des premiers présidents américains à être dans ce délire impérialiste et aller faire les colonies, comment ça s'appelle, Haïti, enfin pas Haïti, enfin il y a plusieurs, ce qu'on connaît comme étant les colonies américaines, c'est lui qui a étendu ça, parce que le territoire américain était trop petit, il fallait s'étendre encore plus, enfin voilà, ce délire impérialiste, c'est la directive de Monroe, tu vois, et lui maintenant il appelle ça le Donro, quoi, tu vois,
c'est... Ah bah ouais.
Donc il est complètement dans ce délire expansionniste.
Après, moi, je voulais dire, par rapport à ce qu'on vient d'écouter aussi, il dit lorsque la productivité augmente, on pourrait vivre pacifiquement et profiter de la richesse, du bien-être et tout. Et la technologie, ça pourrait servir pour les biens. Moi, j'ai dit aussi, en vrai, la productivité augmente parce qu'il y a du pillage derrière.
Bien sûr.
La productivité augmente parce qu'il y a de la guerre derrière. La technologie existe parce que aussi on a exploité des ressources. On est dans ces... Du coup, ça, pour moi, il y a aussi une logique un peu à revoir un peu là derrière. Quoi.
Bien sûr,
ça,
tout à fait. Je suis d'accord avec toi.
C'est aussi ces trucs de la productivité augmente. Il faut les remettre en question, en fait. Pourquoi on doit produire de plus en plus, en fait.
C'est ça. Pourquoi on doit avoir autant de choses, accès à autant de trucs?
Et puis surtout aussi à autant de choix.
Exactement.
Parce que finalement, si on prend l'exemple d'un grand magasin, moi quand j'étais minot, t'avais trois sortes de yaourts ou quatre, tu vois, le plus cher, le moyen. Mais là, moi, des fois, je vais dans des grands magasins, je suis complètement perdu. Ouais. Il y a tellement de choix, tellement de choses. Donc effectivement, pour qui on produit, pourquoi on produit, et surtout à quoi ça sert de produire autant pour pas grand-chose. Tout se jette, rien se consomme.
Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais, vaste, vaste sujet. Est-ce que vous voulez qu'on enchaîne sur... je sais pas, t'avais pas fait une capsule sur... parce qu'il parlait de Glucksmann là, dans celle-là. Ouais. T'en avais une
ouais,
autre?
Ouais, ouais, j'en ai une autre et c'est Michel... je vous redirai ça à la fin de la capsule sonore. Là,
Botenga.
Botenga, exactement, ouais. Qui est un élu du Parti Travailleur de Belge qui a alpagué justement Glucksmann à la Cour européenne. Donc voilà, c'était une petite boubourse... C'était avant.
Il y a des trucs comme ça qui restent ancrés.
Cette petite capsule, on vous laisse écouter, on en reparle derrière.
Dédicace intemporelle à tous les boubours et toutes les boubours qui nous écoutent.
C'est clair.
Ils n'écoutent plus.
Ouais, c'est clair.
Exactement.
Coûte ça.
Salut à tous. Tension maximale aujourd'hui au Parlement européen. L'UE vient de valider l'EDIP, un chèque d'1,5 milliard d'euros pour l'industrie de l'armement. Mais le pire est caché dans les détails. En effet, un discret mécanisme de crise permettrait désormais d'imposer aux ouvriers des journées de plus de 13 heures et des semaines au-delà de 48 heures, le tout au milieu d'explosifs et de produits toxiques. Donc, pendant que ces travailleurs risquent leur santé, les marchands de canons, déjà gavés par le conflit en Ukraine, décrochent le jackpot. C'est une trahison que le député belge Marc Botenga n'a pas laissé passer. En pleine séance, il s'en est pris violemment à Raphaël Glucksmann et à ceux qui, bien au chaud, applaudissent l'idée de sacrifier la jeunesse au front. Ce qui suit est sans filtre.
Quel culot quand même, hein ? Tous unis, heureux de célébrer ici un texte qui dit aux travailleurs qu'il faudra peut-être travailler plus de 13 heures par jour, plus de 48 heures par semaine. Et tout ça pour le militaire dans un secteur où c'est déjà, grâce à la guerre en Ukraine, le jackpot pour les patrons et pour les actionnaires. Est-ce que vous savez ce que c'est la fatigue quand on travaille dans une industrie dangereuse avec des explosifs, des produits toxiques ? Non, évidemment, vous le savez pas. Et que ce genre d'idées viennent de la droite, ça ne m'étonne pas. Hein, vous êtes toujours prêt à sacrifier les intérêts des travailleurs. Mais que le groupe socialiste, social-démocrate va soutenir ça, franchement, mais quelle trahison. Main dans la main avec la droite. Monsieur Glucksmann, ne faites pas cette tête. Franchement. Hein, oui, je sais bien que vous iriez même plus loin, vous. Hein, vous enverriez même les travailleurs à la mort. J'ai bien compris quand votre général français, là, il disait « Ah, que on se prépare à perdre nos enfants dans la guerre. » Vous avez applaudi des deux mains. Bah, écoutez, franchement, après 4 ans de guerre en Ukraine, c'est facile de donner des leçons de votre fauteuil. C'est facile, hein. Pourquoi vous y allez pas? Vous allez, pourquoi vous envoyez les enfants des travailleurs? Allez-y vous-même plutôt que de faire la leçon aux autres, monsieur Glucksmann. Franchement, hein, mépris pour les travailleurs, on en a un peu marre ici. Respectez les gens finalement. Vous dites défendre l'Europe, mais à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez les travailleurs européens. Non, on ne payera pas le prix de vos échecs diplomatiques et on ne cédera pas. On ne cédera pas nos droits sociaux. Hein? Non, mais profitez bien de vos privilèges ici. Hein? Les travailleurs vous feront payer l'addition.
Voilà, les travailleurs, ils s'en prennent plein la mouille
hein, quand même. Il a l'habitude. Ouais.
Tellement mérité.
Ouais, tellement grave. Mérité, c'est vrai. On est d'accord. Je trouve qu'il même, il devrait en prendre encore plus dans sa face.
À mort.
Moi, j'avais envie de faire une petite corrélation avec. C'est mon petit côté à cab de notre soirée là. Je voulais faire lire un petit texte. Je voulais lire un texte. Il faut que j'arrête avec ce petit. Il n'y a rien de petit. C'est énorme ce qu'on dit. C'est une histoire de contrôle et de classe et de colonie par la police. Voilà, donc je voulais vous lire ce petit texte parce que je pense que c'est important. On parle de la guerre, mais la guerre, elle est aussi à l'intérieur. Elle est aussi orchestrée par ce bras armé du gouvernement contre les populations pour les contraindre et les réprimer. Donc voilà, je voulais vous lire ce texte qui est un texte qui nous a été écrit par Nero pour Blackline Media. Force à eux, Blackline, ils sont souvent en tête de cortège dans les manifs avec des banderoles. Et ils font aussi des fresques à Paname et ailleurs. Voilà, donc on raconte souvent aux enfants que la police existe pour protéger. Quand on remonte aux origines de l'institution, la réponse s'impose avec clarté et embarrassement, comme moi là tout de suite. La police moderne n'est pas née pour garantir la sécurité des citoyens, mais pour surveiller, encadrer et au besoin réprimer les populations que l'ordre social dominant jugeait indociles. C'est une invention politique. Ses racines plongent dans la peur des élites face aux masses urbaines, puis s'étend dans les territoires coloniaux où s'affirment les techniques de contrôle. Ce qui devait n'être qu'un outil de discipline est devenu un pilier de la gestion sociale contemporaine. À ses débuts, la police moderne s'imposait comme un instrument administratif chargé de maintenir le calme dans des villes en pleine explosion démographique. Ce qui inquiète les dirigeants du 18e et 19e siècle, ce ne sont pas les voleurs ou les criminels, déjà largement gérés par d'autres formes de justice, mais les foules mouvantes, nombreuses, imprévisibles, politiquement dangereuses. On met alors en place une force spécialisée, uniformisée, centralisée, capable de quadriller les quartiers populaires, de surveiller les ruelles, d'empêcher les attroupements. Son rôle est depuis toujours politique. La sécurité n'est qu'un prétexte, la vraie mission est la stabilisation sociale. Dans les sociétés industrielles naissantes où grèves, émeutes et révoltes sont désormais courantes, il s'agit de protéger les intérêts économiques avant tout. Les premiers policiers modernes sont moins des protecteurs que des managers du désordre, au service du pouvoir, soucieux de domestication plutôt que de dialogue. Le contrôle des classes populaires, une constante historique. Il suffit d'observer qui la police surveille pour comprendre à qui elle sert. Dès sa création, l'institution s'intéresse de près aux classes laborieuses. Non parce qu'elles seraient plus dangereuses, mais parce qu'elles sont plus nombreuses, plus pauvres, plus visibles, et donc plus susceptibles d'être accusées de troubler l'ordre public. Le vagabondage, la mendicité, les rassemblements de travailleurs, les manifestations, autant de comportements que la police apprend à réguler, le plus souvent de façon brutale. La police est dès l'origine un outil de classe qui protège la propriété privée dans un monde où la majorité ne possède rien. Elle réprime les grèves pour garantir la continuité de la production. Elle disperse les rassemblements qui pourraient menacer le statu quo. Son rôle est de neutraliser les tensions quotidiennes produites par un système économique inégalitaire. Avec la montée de l'industrialisation, la police devient un instrument de moralisation. Surveiller les mauvaises conduites, empêcher l'errance, discipliner et mater. La gestion des pauvres n'est plus seulement sociale, elle devient policière. On contrôle les déplacements, on régule les gestes, on surveille les comportements. Le colonialisme, laboratoire de la répression. Si l'histoire de la police dans les métropoles est celle du contrôle, l'histoire de la police dans les colonies est celle de la radicalisation. Les territoires colonisés servent de terrain d'expérimentation pour les méthodes de surveillance et de coercition qui n'auraient jamais été tolérées, de moins officiellement en Europe. On y perfectionne les fichiers d'identification, les techniques de fichage, les quadrillages militarisés des quartiers, les interrogatoires coercitifs, les patrouilles armées, la gestion des populations considérées comme dangereuses ou arriérées. Le lien entre la police et domination coloniale n'est pas un accident, il est constitutionnel. La police coloniale sert à imposer un ordre étranger, à étouffer les résistances, à structurer un rapport de force raciale et politique. Et lorsque les colonisés migrent ensuite vers les métropoles, ils se retrouvent confrontés à des pratiques policières qui les ciblent de manière disproportionnée. Le colonialisme ne disparaît pas, il se transforme en logique interne, inscrit dans les réflexes et les méthodes de l'institution. La militarisation contemporaine de la police, la répression des mouvements sociaux, la surveillance des quartiers populaires portent les traces visibles de cette généalogie coloniale. Ce qui a été expérimenté pour dominer au loin sert désormais à gérer l'intérieur. Voilà. En gros, on est en guerre.
Ouais.
Faut le savoir depuis longtemps.
Ouais, grave.
C'est pas tout neuf.
Ah non, c'est pas tout neuf du tout. Hein.
Si vous voulez, vous mangez de la grosse lecture parce que l'hiver est vraiment trop froid et vraiment trop long et que vous kiffez votre couette, vos compagnons et compagnonnes ou votre poêle ou votre radiateur, on peut vous recommander la lecture de Mathieu Rigouste qui a étudié en long, en large et en travers les généalogies coloniales de la police française, en fait, qui s'est constituée justement dans une optique coloniale et où petit à petit les missions ont été ramenées à l'intérieur du territoire contre les différentes populations d'indésirables parce qu'elles n'ont pas le capital, parce qu'elles n'ont pas la propriété, parce qu'elles ne sont pas en haut de l'échelle sociale. Et c'est cette même police qui nous traque encore aujourd'hui dès qu'on essaye de l'ouvrir un petit peu trop fort.
Exactement.
Ouais. Merci pour ce conseil de lecture.
T'avais un truc à rajouter ?
Non.
Ouais. Non.
Je voulais. Je sais pas si on va passer sur le Chili du coup. Ou on passe de la musique avant.
Moi, je te propose qu'on passe un peu de la musique d'abord. Ouais. Hein, on fait une petite transition musicale. On a un tout nouveau morceau de Kraftboka avec Laurent Desberru qui s'appelle Drapeau Noir, qui est bien représentatif de ce qu'on pense nous tous ici.
Bah, oui.
Et on hisse haut ce drapeau noir. Donc écoutez ça, puis on revient, on parlera.
Du Chili.
Drapeau noir. sang-froid, représente les sans-voix, sans barreaux ni frontières.
C'est le monde qu'on conçoit.
Notre couleur c'est l'arc-en-ciel, dans un monde artificiel. On met l'erreur dans le logiciel, comme une onde existentielle. Toute la rage qui vient du large, comme un orage et des grippages. Y'a des voyages qui sont de la charge, comme un braquage à l'étalage. Y'a des bouts d'horizon, dans le bruit des caissons. La fin des prisons, et des nuits de questions.
Dans la rue, sur ton batte. Pour demain j'vais tout au noir, tant qu'il y a du noir et y'a du espoir. Dans la rue, sur ton batte. Pour demain j'vais tout au noir, tant qu'il y a du noir et y'a du
Voilà, c'était les Bérus à l'ancienne. Hein. Ça fait du bien. Moi, je préfère quand ils font ça plutôt que du Biniou. Enfin, Laurent, je parle.
On est bien d'accord.
Ouais, les Ramoneurs de Menhir, c'est pas mal, mais ouais. ça c'est mieux.
On préférait les Bérus, ouais. Quoi qu'il arrive.
Ouais, carrément. On vous a remis en fait la petite intro du début. Parce qu'il se fait que c'est un morceau qui nous vient de Santiago du Chili, qui est un morceau de Fen qui s'appelle Wildo. Et notre ami présent là va nous parler du Chili. Donc ça nous semblait approprié quoi, ouais. De revenir là-dessus.
Avant ça, je voulais juste dire drapeau noir dans la rue. C'est quand on voit des gens habillés en noir dans les rues, dans les manifs, qui ouais. Commencent à casser des banques, à attaquer les flics. Ouais. C'est pas des fachos, c'est pas des infiltrés, c'est des anarchistes.
Et ouais, voilà.
C'est parce que les gens, peut-être parfois, quand on écoute les partis de gauche ou les syndicats qui commencent à dire ces gens. Ouais.
Ils font ce qu'ils osent pas faire.
Ouais.
C'est pour ça que ça leur fout les morts.
Ouais. Tu vois. Et du coup, là, on va dans un pays qui s'appelle le Chili,
ouais.
Où il y a un fort mouvement anarchiste aussi. Et où, malheureusement, aujourd'hui, il se trouve vraiment, vraiment, vraiment dans la merde. Et je ne dis pas plus, on va écouter tout de suite un petit son qui nous explique qui a gagné les élections aujourd'hui au Chili.
Au Chili, ouais. Ben, on s'écoute ça tout de suite.
Revendiqué de la dictature de Pinochet et un catholique ultra-conservateur opposé à l'avortement, José Antonio Kast vient de remporter l'élection présidentielle au Chili avec 58,3% des suffrages au second tour. Voici trois choses à retenir sur lui. D'abord, son histoire familiale, étroitement liée aux dictatures d'extrême droite du XXe siècle. Son père, un Allemand émigré au Chili en 1951, a été membre du Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands, aussi connu sous le nom de Parti Nazi. Il l'aurait rejoint en 1942, soit au plus fort de la guerre d'Hitler contre l'Union Soviétique, raconte The Guardian. José Antonio Kast conteste ce récit. Il affirme que son père a été enrôlé de force dans l'effort de guerre sans aucune conviction idéologique nazie, rapporte le site argentin El Diario AR. L'autre personnage troublant de la famille Kast, c'est Miguel, le frère aîné de José Antonio, qui a occupé des postes clés sous la dictature d'Augusto Pinochet. Le Caribe Peninsular le décrit même comme l'un des architectes des réformes économiques du régime militaire. José Antonio Kast, lui, a toujours partagé son soutien à l'ancienne dictature militaire et a été accusé à plusieurs reprises de minimiser les crimes commis sous Pinochet. Lors de sa première candidature à l'élection présidentielle en 2017, il avait d'ailleurs annoncé vouloir gracier plusieurs personnes condamnées pour violation des droits humains pendant la dictature militaire, rappelle El País América. Cast se distingue aussi par sa position anti-immigration. Pendant sa campagne, il a lancé des ultimatums aux quelques 330 000 migrants sans papier, majoritairement des Vénézuéliens vivant au Chili. Cast leur a donné jusqu'au 11 mars, date de son investiture, pour quitter le pays, sous peine d'être expulsés, je cite, « avec pour seul bien leurs vêtements », rappelle le correspondant du Guardian en Amérique du Sud. L'une des séquences les plus marquantes de sa campagne reste d'ailleurs ce face-à-face tendu avec une migrante vénézuélienne en novembre dernier.
Es mejor que usted piense en salir antes que después, porque hoy día usted tiene sus bienes.
Selon The Guardian, tout au long de sa campagne, Cast a systématiquement présenté les migrants comme la cause de l'insécurité croissante du Chili, un discours qui a trouvé un écho dans un pays où le nombre de migrants a doublé en 10 ans, une hausse largement liée à l'arrivée massive de Vénézuéliens contraints de fuir l'effondrement économique de leur pays.
Primero, soy católico y después soy político.
Mais Cast, c'est aussi un fervent défenseur des valeurs ultra-conservatrices, même s'il a tenté d'adoucir son discours à ce sujet. Député pendant 14 ans à l'UDI, le parti conservateur chilien fondé par des catholiques, il créait en 2021 le parti républicain, affirmant alors vouloir incarner une nouvelle droite capable de remporter une bataille culturelle et idéologique, explique El País América. Lors de ses meetings de campagne, Cast mettait souvent en avant sa foi catholique et assumait pleinement son opposition à l'homosexualité, la pilule du lendemain et la loi sur les droits des personnes transgenres, précise le média hispanophone. Il avait également annoncé vouloir supprimer le ministère de la femme et remettait en cause le droit à l'avortement, pourtant limité au Chili au cas de viol, de fœtus non viable ou de danger vital pour la mère. Des positions extrêmement conservatrices qu'il avait largement mises en avant lors de ses campagnes pour la présidence du pays en 2017 et en 2021 et qu'il a donc relégué au second plan cette année au profit d'un discours axé sur la peur et la promesse d'un État garant de l'ordre et de la sécurité. Une stratégie qui s'avère donc payante dans un Chili inquiet de la hausse du taux d'homicide qui a doublé ces 10 dernières années mais qui reste inférieur à celui de la plupart des autres pays d'Amérique latine, conclut El País.
N'importe quel père coquet, 2 kilos sous chaque pied, des barres de fer forgées en extension au poignet, poing américain et jambière en titane. Des doigts en acier, tu pourras plus jamais toucher, barricadé jusqu'aux ongles, énervé, y'a que ça qui compte. Poing américain et jambière en titane. Et un masque en fer, kamikaze étincelle, et un casque en or, je barricaderai tout mon corps. Poing américain et jambière en titane.
Voilà, voilà, c'était une petite réaction justement à la capsule sonore juste avant. C'était pour lui mettre un peu ça dans sa face à Cast. Je pense qu'il méritait ce son des King Kong Muff qui s'appelle Kamikaze Étincelle. Voilà. C'est, voilà, je me suis dit, il avait besoin de se prendre une espèce de kick de jambière en titane dans la face. Voilà, donc bah écoute, dis-nous.
Ouais, on va continuer du coup à parler du Chili, où, comme on disait, il y a un candidat fils d'un ancien soldat nazi qui a gagné, un président bien, bien, bien d'extrême droite.
Ouais.
Et un petit rappel historique du coup. Et à Santiago, le 11 septembre 1973, c'était le coup d'état de Pinochet contre le gouvernement de gauche de Salvador Allende. Et Salvador Allende, il s'est tiré une balle dans son palais présidentiel alors qu'il était siégé par les militaires fascistes. Et des milliers d'opposants de gauche, étudiants, syndicalistes, journalistes, ouvriers, étaient enfermés dans un grand stade de la capitale du Chili. D'autres étaient abattus sommairement dans la rue. La terreur s'installait dans les pays. Et l'armée avait pris la rue, elle avait pris tout. Et la dictature de Pinochet était durée jusqu'à 1990.
Ouais, ça a été du une coup, des plus dures de l'Amérique latine.
Une des dictatures plus récentes aussi.
Ouais, ouais, ouais.
La mémoire de cette dictature, elle est encore assez vivante au Chili. C'est une dictature qui a été soutenue fortement par les États-Unis, comme d'habitude,
bien sûr.
Par l'école des Chicago Boys, l'école, le modèle néolibéral, ultra-néolibéral, pour privatiser tous les services du pays, pour faire entrer en force toutes les entreprises capitalistes américaines, occidentales, dérégulation, base des salaires, élimination des opposants. Voilà la recette des Chicago Boys, que c'est un peu la même en fait qu'aujourd'hui. On va revenir en force.
Les Trump
Boys. Et aujourd'hui,
Boys.
On va revenir en force, du coup, aussi, cette nouvelle vague de fascisme. Et ce qui est aussi choquant, c'est qu'en 2019, au Chili, il y a eu un gros mouvement de rue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était juste avant le Covid. Ça a commencé en octobre 2019 avec la hausse des prix du ticket de métro,
ouais.
Qui en fait c'était l'étincelle. Mais du coup, c'était une explosion de rage contre les inégalités sociales. Quelque chose de vraiment très, très impressionnant, très fort, des combats de rue qui ont duré des mois.
Ouais, ça
s'est poursuivi jusqu'en mars de 2020, quoi, jusqu'à en fait, à l'état d'urgence du Covid et tout ça. Et des barricades, des émeutes de rue, des sièges des institutions, des commissariats incendiés, des entreprises attaquées. Et c'était vraiment quelque chose qui était assez massif. Avec du coup un gouvernement néolibéral autoritaire de Piñera qui était mis en échec. Et du coup, les mouvements avaient arraché de nombreuses concessions, notamment des augmentations de salaire, des protections sociales, un système de santé publique. Et, bon, les gouvernements suivants, c'était un gouvernement soi-disant de gauche qui avait essayé du coup d'aller un peu dans un sens plus social, quoi. Sauf que, en fait, finalement, ce gouvernement, il n'arrive pas au bout de ce qu'il les gens, ils s'attendaient, ils espéraient qu'il allait faire. Finalement, en fait, il se retrouve aussi face à de nombreuses manifestations dans la rue, de nouvelles émeutes. Et, la situation dans les sud du pays, où il y a la population mapuche, qui est expolié de ses terres depuis de nombreuses années par des grandes industries, de la grande industrie. Et, du coup, elle se révolte. Et le gouvernement de Boric, le gouvernement soi-disant de gauche, il envoie l'armée, il décrète l'état d'urgence. Donc, finalement, il y a la montée du fascisme de l'autre côté qui fait pression, qui fait sa campagne notamment sur les migrants vénézuéliens.
Ouais, voilà.
Il y a des millions de Vénézuéliens en Amérique latine,
notamment
au Pérou, en Équateur et aussi au Chili, en Bolivie, dans tous les pays de l'Amérique du Sud. En fait, il y a une grosse vague de migration de Vénézuéliens. Du coup, un peu comme ici, quoi, on commence à dire c'est la faute des migrants, c'est à cause d'eux si on est dans la merde.
Facile,
et voilà, là, et aujourd'hui, en fait, il se retrouve avec un président fils des nazis qui porte des idées nazies et qui est soutenu ouvertement par l'école néolibérale de Trump et de tout. Voilà, du coup, en Argentine, Milei, au Chili, Cast, à Venezuela, on enlève Maduro on va gouverner nous-mêmes les États-Unis.
On va mettre, comment elle s'appelle, la meuf, la prix Nobel de la paix
Machado,
qui est prix Nobel de la paix,
néo-fasciste.
Néo-fasciste,
Voilà,
pro-Trump et compagnie, quoi, tu vois, c'est la fête. C'est pour ça qu'on est là.
Grave. C'est pour ça qu'on existe, nous.
C'est pour ça qu'on existe.
On pousse à attendre qu'au Chili, du coup, les gens, ils vont pas se laisser faire. On pousse à attendre que dans les prochains mois, dans les prochaines années,
réaction.
En fait, oui, c'est quand même un des plus grands mouvements révolutionnaires, féministes, anarchistes du monde, quoi. Vraiment, c'est vraiment un mouvement de masse. Et je pense que ça risque d'être assez violent, quoi, parce que de l'autre côté, tu as des nazis au pouvoir. C'est la situation, elle devient vraiment, vraiment tendue, quoi, un peu partout. Ouais.
Carrément, de plus en plus tendue un peu partout. Hein. Mm. Quand on revient justement sur ce qu'on disait, l'enlèvement du président, tu vois, de Maduro, par les États-Unis. États-Unis sans vergogne, tu vois, qui défient toutes les lois. On disait aussi ça, la corrélation avec la tentative de coup d'État
au Burkina Faso.
Voilà, encore et encore des réactions de politique à l'encontre des gens qui ont envie d'avoir de la liberté ou de fonctionner différemment. Parce qu'il faut rappeler qu'au Burkina Faso, c'est quand même suite à un coup d'État militaire d'un mouvement pro-Thomas Sankara. Donc pour ceux qui ne savent pas, panafricanisme, socialiste, tu vois, dans le vrai sens du terme, hein, je ne parle pas des Glucksmann et compagnie, hein, c'est pas nos références ici, hein. Mais ce mec là il est militaire, capitaine, il est tout d'un coup à la tête d'un coup d'État, et qu'est-ce qu'il fait? Il garde son salaire de capitaine alors qu'il est président de l'État aujourd'hui, hein, et il a descendu tous les salaires de ses ministres, enfin tu vois, comme Sankara avait fait à l'époque où il imposait à ses ministres de rouler en R5 et compagnie, quoi. Voilà, c'est ces gens-là qui ont des visions différentes du monde et qu'il faut faire taire, parce que, tu vois, toute la fachosphère planétaire n'a pas envie d'avoir des poches de résistance. Donc, il faut les annihiler le plus tôt possible et le plus vite possible. Mais nous, on est là, hein, a dit, petite poche de résistance. On fait ce qu'on peut, mais tu vois, on n'a pas peur. Et,
tant que Donald Trump ne vient pas nous enlever.
Mais même, il peut toujours essayer. Il peut toujours essayer. Peut-être c'est lui qui se retrouvera en galère. Tu vois. Ouais. Non, je pense qu'il s'en fout de nous. Hein, tu vois, franchement, il n'en a rien à battre. On arrive déjà à 1h30 d'émission.
Ouais, on est sur la fin, on va dire.
Sur la fin. C'était plutôt assez agréable vous balancer toutes ces choses. Et puis, on reviendra dans un mois vous balancer encore d'autres choses et continuer la lutte. Hein. Comment on dit ça, Luta Continua ou, tu vois. Ah, je voulais faire une petite blague sur Cast. Je voulais dire, c'était pas mon pote Cast. Voilà, okay. C'était une petite blagounette comme ça. Tu vois.
Est-ce que moi je vous présenterai pas le prochain week-end
si,
qui s'organise?
Tout à fait.
Je
mais
pense
oui,
que c'est
bien
le bon
sûr.
Moment là.
C'est le bon moment, tout à fait.
Grave. Moi, je voulais vous parler. On voulait vous parler que le comité antifasciste de Saint-Étienne organise le premier week-end de janvier 2006 plusieurs rencontres avec des militants, dont la Horde, et des chercheurs et des chercheuses sur différentes thématiques liées à la lutte contre l'extrême droite et ses idées. Donc le festival, si on peut appeler ça comme ça, s'appelle « Combattre l'extrême droite sur tous les fronts, saison 2 ». Donc c'est samedi 10 janvier et dimanche 11 janvier. Ça commencera le samedi avec les différentes stratégies antifascistes. Donc les invités seront Fatima Wasax, elle c'est une militante antiraciste cofondatrice du collectif Fronde Mère, syndicat de parents dans les quartiers populaires, l'action antifasciste de Grenoble, combattre sur tous les fronts, un week-end antifasciste pour réfléchir, s'organiser, résister. Le samedi, c'est l'international fasciste, donc les invités sont Cole Stengler, journaliste franco-américain, auteur de Le Miroir américain sur la radicalisation de la droite américaine. Navid Lahri, lui c'est un militant belge participant à la flottille humanitaire vers Gaza. Toujours le samedi, il y aura les différentes stratégies antifascistes. Les invités seront l'offensive, groupe antifasciste lillois engagé sur les questions municipalistes. La Horde, un collectif antifasciste animateur d'une plateforme en ligne centralisant les infos antifa en France. Et le dimanche, le thème sera la réappropriation de thèmes par l'extrême droite. Et les invités seront Elisa Bailey, elle c'est une sociologue travaillant sur les questions de genre, notamment au Rassemblement National et dans la Lega italienne. Et Antoine Dubio, assistant doctorant en géographie, auteur d'écofascisme. Donc bouger, hein. Nous on n'est pas très loin de Saint-Étienne.
Hein. Ouais.
Allez, moi j'ai pas les adresses complètes, mais je pense que si vous cherchez sur les
réseaux, vous allez trouver. En tout cas, tu vois, c'est deux jours antifascistes à Saint-Étienne.
Exactement. Donc voilà. Ça s'appelle Combattre l'extrême droite sur tous les fronts, saison 2. Donc c'est ce samedi et ce dimanche à Saint-Étienne, quoi.
Yes. On se quitte là-dessus.
Ouais.
Hein. On vous dit bonsoir, bonne nuit et puis dans un mois. Merci aux copains d'être venus.
Grave. Je vais rajouter quelques vers d'un poème écrit durant la première intifada par des adolescents de Beit Sahour, une petite ville palestinienne située entre Jérusalem et Bethléem. Et ils nous ramènent à un peu d'essentiel, un peu de simplicité dans la lutte. Ce qu'ils nous disent comme ça. Même si nous possédions toutes les armes du monde, c'est avec les pierres que nous combattrons et regagnerons notre liberté.
Yes,
yes, ben ouais.
Ouais, vous êtes bien sur Antifada, on n'a pas choisi notre nom pour rien.
Exactement.
Et ben, au revoir, à dans un mois.
Ouais.
Et puis on vous quitte sur... Ben, il paraît qu'ils étaient venus à 10, moi je les avais ratés. On vous quitte sur You Can Dance. Un morceau qui s'appelle War Pigs, qui nous semblait approprié pour finir cette soirée.
Mais
à tout vite.
Grave.
Ciao, ciao.
Bonne soirée.
Salut.
We'll be right back. Yeah.